1920, 1er janvier 1920, plus 1 mois et 5 jours. Ma vie, mon esprit, bientôt je vais vous rejoindre dans l'éternité. À travers vous, je vais vers Dieu. À cause de vous, j'exige de moi ma difficile réalité. Nous serons un, parce qu'il le faut, dans un soleil qui n'est point encore, et que nous aidons à créer par la peine infinie et la volonté de notre amour qui ne se connaît pas et pourtant trouve. André, j'ai écrit ceci comme tous les ans, et cependant il y a un homme vivant à qui j'ai promis d'être sa femme si je vivais. Il sait que je vous adore, et vous savez que j'ai besoin de lui. Il est de votre religion, janséniste, par sa volonté de travail sur soi-même. Il a fait un havre de grâce pour mes dernières années. Je mourrai tranquille dans ses bras. Je mourrai, ainsi je vous rejoindrai. Peut-être que vous comprenez ces choses. Moi, je ne les comprends pas. 13 février 1920, plus 1 mois et 10 jours. Savais-je, quand je suis entrée dans cette maison il y a 3 ans, que j'y ferais ma vie? Je croyais être en visite auprès de maman, note. Thérèse Pozzi, dont la mésentente avec son mari avait intolérablement cru, s'était décidée vers 1916-1917 à vivre séparée mais non divorcée de Samuel Pozzi. Elle s'était alors installée à Montpellier, où vivait sa cousine Thérèse Posa, seul membre de sa famille qui lui restait encore. Auprès de maman, un hiver. Je me souviens de mon arrivée le bel octobre, mon corps content parce que je le croyais guéri. La guerre n'était pas finie. Mon bourdonnant désastre, note, Édouard Bourdet, était officier quelque part très très loin de ce soleil. J'entends le bruit de la voiture qui traverse les bruits simples de la province et m'amène ici. Je tâche de reconnaître Montpellier d'autrefois. Tout à fait au bout de la ville, vraiment où commencent les carrés de champs cultivés, sur une grande avenue suivie de platanes, c'est une grande maison. Nom d'un chien, c'est à la hauteur. Ça pourrait être aux Champs-Élysées. C'est blanc, avec le toit en ardoise, l'escalier est en marbre polychrome, la porte en noyer ciré, la concierge se porte bien, mon chien de police jette 3 gouttes d'or au beau platane, on monte, on sonne au rez-de-chaussée. Mais c'est très agréable, maman. C'est tout à fait bien. Excellent couloir clair, bon papier, elle ouvre une porte, alors j'ai le coup d'amour. Je suis dans une très vaste pièce qui prend jour par une large baie en retrait. Cela fait une jolie forme d'espace et presque à toucher les vitres bombées, le platane lui-même présenté tout entier, protégeant ton rêve contre le ciel. À travers les branches fuit une admirable ligne de pierre en arcade romaine. À 100 mètres de toi, l'aqueduc du Pérou, vive image de l'Aqua Claudia. La grande pièce ouvre sur une autre qui sera ma chambre. Je serai chez moi absolument, pour dormir et pour travailler, pour avoir mal aussi. Il y eut l'époux, la pneumonie, il y eut le courage, papa tué, maman morte, le mari que je n'ai plus voulu revoir, un autre hiver sur ma musique, un autre été sur le latin, et les mains croisées du magistère et de Bulto, faisant plafond sur mon destin comme le platane qui ne filtre que la meilleure seconde de soleil. J'ai tapissé la chambre en bleu, d'un bleu comme le fond du golfe de Concarneau. Quand on y tombe, après la lumière des rues, c'est le palais de Neptune. Il y a mon lit de Paris. Il a oublié, il n'a gardé que les sommeils des 19 ans. Et presque pas de meubles. Et ça chante. Mais, à côté, car toujours les portes vitrées ouvertes font une seule pièce, à côté de ce bleu, jusqu'au bureau des livres, mon bureau, sauvé encore, jusqu'au divan, jusqu'à la cheminée où sont deux vases, et je m'assieds, oh là, où sont deux vases grecs et mes autres bonheurs à toucher. C'est là que je travaille et marche et m'assieds du fauteuil beige au fauteuil vert et regarde les heures passées sur le paravent d'or et cherche si la vie, c'est l'esprit ou si la vie, c'est la matière. Et je tue Bergson et je lui donne raison et je ressens la beauté des couleurs que j'ai trouvées. Tapis violet, rideau tilleul. Ainsi le bonheur. Je ne souhaite rien du tout que rester là, qu'apprendre. L'événement du jour, c'est si j'ai pu sortir gamma de T2. Si la loi de Carnot m'apparaît soudain comme une trombe que je verrai décroître, balayer les confins du monde. Maman sort Claude et les chiens. 25 février 1920. Maman sort Claude et les chiens. 25 février 1920, plus 12 jours. C'est en août de l'été qui précède cet hiver, à Saint-Gervais un soir, que j'ai mis le De Libertate entre les mains du magistère qui était venu passer avec moi 4 jours. Le lendemain matin, il me l'a rendu avec les compliments enthousiastes que j'attendais de son désir de me plaire. Il semblait vrai, sans doute aussi l'était-il. Jamais il ne m'en a reparlé, et moi non plus je n'en parle pas. Et quelquefois quand il vient à peu près 2 fois par semaine, et qu'il me trouve exalté par une idée ou tourmenté par le souci d'une difficulté, j'avoue en 2 mots. Et les 2 mots, chargés de toute ma vie, passent. Et ni la cathode, ni l'anode n'ont répondu plus ou moins. Il a une phrase vague pour que, violemment, j'écarte son indifférence du sujet qui met la vie et la mort, qui met l'éternité. En parlant de ces sujets à lui, pourtant il discerne que la question syndicale n'est pas mon paradis chéri, et se plaint à bulletot parfois de ce que son travail m'intéresse moins. Tout est mort ici, puisque personne ne t'a entendu. Entendu, à la fin, écrit avec un U. Je ne mets plus jamais de E muet quand il s'agit de moi, quand j'y pense. Et pourtant, tu pourrais en foutre des E muets. Pour cet ami, tu n'es qu'une femme. Il ne regarde l'âme qui coule sur tes pommettes, là, sous l'œil doré, que parce qu'elle fait camélia. Il y a longtemps, des années, que je n'avais été si absolument triste. Au début de l'hiver, comme l'avocat Fourcaca note, surnom que donne Catherine Pozzi à maître Fourcade, avocat à la cour chargé du divorce des époux Bourdet-Pozzi. C'est Gaston Morin qui l'avait recommandé à Catherine Pozzi. Comme l'avocat Fourcaca refusait de divorcer une cliente et, se faisant de la précipiter hors de l'église, comme aussi j'étais presque décidée à épouser plus tard, assez plus tard, le magistère, et comme lui, enfin, me suppliait de le faire, je demandais au cardinal l'annulation de mon mariage. Parce qu'annulé, Fourcaca me divorce et magistère m'épouse, c'est ainsi. Enfin, le cardinal, pensant que j'allais, comme ils disent élégamment, poursuivre la nullité, écrivit au scrupuleux Caca, maître Fourcade, qu'il lui donnait l'autorisation de me divorcer. Mais moi, je remerciais le cardinal, acceptais qu'il m'autorisât et déclarait renoncer provisoirement au procès religieux. Son éminence a fait venir le magister chez elle, d'où il apparaît que, tant que j'étais décidée à l'annulation, qui rapporte cher au diocèse et occupe ces messieurs à des travaux bien intéressants, j'étais une personne infiniment sympathique, sympathique à l'infini. Mais qu'en l'état actuel, il diminue en raison du carré des distances qu'il y a de ma poche au trône des pauvres. Non, tu es vulgaire. Son éminence n'a pas dit cela. Elle a dit qu'elle ne voulait pas faire de jugement téméraire sur moi, mais que j'avais été très malheureuse et n'offrait pas de sécurité. Le malheur diminuait singulièrement la densité. Que d'ailleurs, je n'avais pas la foi chrétienne, cette garantie si sûre. Elle a dit que le magister, trop chevaleresque, s'embarrassait d'une amitié dont, après tout, l'on ne savait pas la valeur, qu'il se faisait sans doute illusion sur mon compte et ferait bien de diriger sa vie vers des parages féminins meilleurs et sans odeur d'hérésie. Le magister m'a rapporté cela ce matin. J'ai serré les lèvres, j'ai dit que je ne souhaitais pas avoir l'air d'avoir joué le cardinal, que s'il m'avait autorisé à divorcer qu'en espérant le procès à Rome, je les contenterais, l'annulation repoussée, en ne divorçant pas. J'ai dit encore qu'il me semblait remarquable d'être en peu de temps chu du rang de dame sage et pitoyable à celui de personne dont on ne veut pas médire. C'est chez les jésuites que l'évêché est allé au renseignement. Parfois, l'un de ces hommes du collège de Claude, note, Claude Bourdet fut inscrit de 1818 à 1920 au collège jésuite Saint-François-Régis de Montpellier. L'un des hommes du collège de Claude, le plus mielleux, venait chez moi entremêlant ses discours de preuve de l'existence de Dieu et de la vérité des mystères. Et parce qu'il voyait la somme théologique sur ma table, n'en était que plus inquiet. Un jour, j'essayais de lui parler de mon mari, rien que par précaution. Ce visage de bois, soudain, c'était au moment d'une visite d'Édouard. J'avais de la peine. Pas une lueur de charité. Ah, Saint-Bal ! Je méprise les gens d'église de tout mon esprit. Qu'ont-ils fait ? J'allais vers le dogme, et voici que je comprends Luther. Note. Catherine Pozzi semble avoir été déchirée depuis l'âge de raison entre le catholicisme aisé de sa famille maternelle et le protestantisme militant de sa famille paternelle. Puis, la singularité de sa propre représentation du monde, à la fois mystique et scientifique, son expérience de la mort et sa recherche d'une survie matérielle de l'âme l'entraînèrent tout au long de sa vie à traverser des crises de foi profondes et instinctives entrecoupées de périodes d'agnosticisme rationnel. Reprise. J'allais vers le dogme et voici que je comprends Luther. C'est le sang des Pozzi, défenseurs de la foi. C'est le sang des Esco. 11 mars 1920, plus 20 jours. Mon Dieu, vous voyez comme l'histoire s'arrange mal. J'avais tous les compas pour vous trouver. Je pigeais proprement le problème Newton-Descartes, le plan focal et la mesure de l'électron. Et voici que je ne suis qu'un enfant perdu. Adieu, pauvre petite Karine, je n'écrirai plus rien. Que penserez-vous, André, de cette aventure qui n'est pas une belle aventure, de me voir si piteusement débattre entre la tendresse et l'orgueil? Je sais que je préfère l'orgueil, mais je n'ai plus la force d'exister seule. Pour que le vent trempé de lune de Pâques ne refroidisse pas la chambre, j'ai tiré les grands rideaux verts de la fenêtre sur l'avenue. Ce papier ne voit que l'œil de la fenêtre qui est à côté de mon lit. Et j'écris à moitié dans le jour, à moitié devant une pièce nocturne, où vous pourriez bien descendre un peu, ô mon rayon noir. C'est la solitude en moi qui m'étouffe, André. C'était ainsi autrefois, mais je bougeais. J'avais le corps léger que vous avez connu, bon à bondir dans l'été, dans l'hiver bon à fuir. Depuis 5 ans, le lieutenant Hundorf vous a tué, et le mystique poignard dans mon poumon gauche. La licence S-Science ne suffit pas à tout consoler. Il fait presque nuit, je n'explique pas bien. Une église sonne quelque chose, je suis sans foi et sans espoir. Pourtant j'ai du génie. Qu'est-ce qu'il en fera l'homme à la tendresse sauvage qui ne souffre pas de mes tourments, ni ne se cogne à la cage du monde? Cela pourquoi je me suis faite chair, il ne souhaite pas le trouver. 9 avril 1920, plus un mois. Ceux qui liront ceci quand je serai froide, je dis parti, tu brûleras toujours, penseront que j'écrivais pour eux. J'écris pour ne pas mourir de solitude. Le temps est étrange. Je me perds tout à fait en essayant de discriminer la chimie sentimentale qui se défait et se combine malgré moi dans le moi que je n'atteins pas. Il était à Paris, le magistère, promené par son éditeur et ses amis sur la Via Sacra, offert avec réclame à tous les ministrables comme le sage de l'heure. Il était à Paris. D'ici, sans recevoir presque de lettres, je me le représentais palingène, lancé, bolide conscient vers la domination des hommes. Je le ressentais créé haut jusqu'à mon image du mal complet, M-A accent circonflexe L-E, jusqu'à mon image du mal complet, juste assez terrestre pour s'amuser encore de ce qui ennuie l'ange. Alors j'ai commencé de l'aimer pour autre chose que le délice de son amour. Il est revenu, plus absolument à moi qu'avant, mais pas beaucoup plus semblable à l'image. Poincaré l'a reçu, brillant, jouot. Il est, comment dire, sans figure qui trahisse. Il est une âme qu'on allume facilement pour n'importe quel intérêt, mais qui brûle 4 jours. C'est trop lui céder, car les très vénérables idées que je me suis jamais prises à lui passer n'ont fait son feu que 4 minutes. Ô cœur de chair, je sais bien que vous avez toutes les ambitions que Madame B, note Madame Bulteau, toutes les ambitions que Madame B vous dira de prendre. Je sais que vous n'auriez jamais rien fait que moudre leçon à fin de diplôme si je n'étais venu vous réveiller. Il n'y a pas de travail qui vous court dans le sang, pas de travail à la marée de votre artère, flux par flux fermentant jusqu'à Dieu. Vous travaillez parce que vous êtes prudent et sage. Moi, je travaille parce que je suis fou. Vous travaillez pour vivre, moi, je travaille pour après le mourir. Et cependant, vous êtes ma tendresse. Vous êtes mon espèce de bonheur. Vous étiez. Ce sera l'imparfait sur cette phrase-là. 21 avril 1920, plus 10 jours. Je suis souvent dure pour lui, de moi à moi. C'est que j'en attends plus qu'il n'est juste d'attendre. Je vois clairement la force secrète de ce lourd cerveau qui s'est habitué seulement sur le moins nutritif univers. Furieuse de ce qu'il consomme obstinément des pierres, je lui jette tous les fruits du monde, mais il revient toujours à son fuligineux repas. Si Socrate a si haute opinion du juriste politicien, il ne convient pas que je l'abaisse. Pour l'homme d'après la Grande Guerre, rien n'est plus grave sans doute que refaire des lois. Mais c'est trop formel. Ils travaillent tous sur leur seule logique. Ils n'ont aucun contact avec la réalité. pour s'acharner à ne pas quitter le fait technique, les marxistes même manquent un vrai supérieur. Quant aux autres, il y a la masse bourgeoise, absolument ignare, le côté morasse, fou de son syllogisme et s'y jetant comme gribouille à l'eau, le côté morin, recréant sur un coin de table l'univers avec deux idées générales et deux concessions. Les marxistes croient être scientifiques parce qu'ils croient à la matière. Ce serait trop simple, disait André. Devient certainement, en manière actuelle, purement économique, de poser le problème social. C'est un petit progrès. Il ne faudrait pas pourtant croire que c'est le progrès. Quant à Maurras, Morin, tout adversaire qu'il soit, ils sont aussi, presque aussi loin du réel l'un que l'autre. Le réel ne se laisse pas cueillir au filet de l'histoire, ni au filet de l'idée générale, passoir à gros trous. Le réel, c'est quelque chose de peut-être inaccessible, mais vers quoi tend la science? La science que ne sait pas Marx, et sur laquelle passe Bainville d'un pied décidé. Je voudrais une sociologie qui saurait l'histoire naturelle. Une économie qui saurait la physique. Pourquoi n'y a-t-il pas un seul biologiste à la chambre? Ils travaillent à créer une hiérarchie nouvelle. Ils n'ont pas une théorie de la valeur qui soit harmonieuse à l'univers. Quel est le fait majeur? C'est le prolétariat, dit Jouot. C'est l'ordre, dit Maurras. C'est l'organisme, avec idée de but, dit Morin. Mais le doyen de la faculté des sciences répond, c'est l'esprit. La société qu'ils bâtissent, en mépris de cette seule, de cette invisible puissance, me fait dégoût.
26 avril 1920, 7 heures du soir, plus 5 jours. Claude et moi venons d'allumer un petit feu qui ne prend pas dans la grande cheminée de la grande salle sereine. Claude traduit du Cicéron, penché sur mon bureau d'érable. Il sent lui aussi l'amitié des choses. Il vient chaque fois qu'il peut travailler ici. 9 heures aujourd'hui. Que la toilette du matin est lassante, aux membres lourds, ces bras si maigres dans lesquels ne coule pas encore la volonté à la place du sang, ces bras qui voudraient dormir. Une heure de physique cependant avant midi, après 40 minutes de musique, lire du Schwab, 1 heure de philo, à 7 heures le point de la fatigue qui ne nuit pas était passée, c'était la vraie fatigue, dangereuse avec le coup de poignard, pour en tout 2h40 d'application. Il y en a auxquels vivre ne fait pas mal et qui ne foutent rien. Je suis trop lasse, que j'aime l'univers cependant, que je progresse à le comprendre. Quel pain je moudrais pour les hommes si... 30 avril 1920, plus 4 jours. Édouard Bourdet a envoyé avant-hier un ultimatum où il reprendra à mon foyer la place à laquelle il a droit ou il m'enlève Claude. Après-midi de fin du monde. Je marchais à travers des campagnes gaies, plus inadéquates que des images d'Épinal pour un mourant, et je pensais ainsi, quand mon frère et moi étions tout petits, nous nous posions gravement ces questions sans détour. Aimerais-tu mieux être enterré vivant qu'écorché vif? Je choisis d'être écorché, non plus vivante, auprès de ce gros mort qui bouge. Qu'on m'arrache plutôt le cœur, libre au grand soleil. Le magistère revient d'Aix ce soir. Lui dirai-je cela? Peut-être pas, à quoi bon? Il prendra l'air du bon juge, dépourvu de solution. Ensuite, il dira « Croyez-vous en moi ?» Ah là là. Ensuite, il dira « vous savez combien ce qui vous touche, etc. » Et il ne fera rien. Le bilan, je suis plus fatiguée que cette vie tranquille ne l'explique. Cette nuit, je respirais mal, ce matin aussi, mourir. Avant qu'Édouard Bourdet ne m'arrache Claude, encore un moyen. Fallait le paradis ou choir. Tachu. De fait, pour recueillir tout ce que tu lui dédiais, il eût fallu quelques héros. Note. Catherine Pozzi parle de Gaston Morin. Et il n'est que très bon et très amoureux. Je n'ai pas besoin que l'on aime tant ma figure, que l'on me mêle au vert du printemps. J'ai besoin qu'on aime ce que j'adore et qu'on serve le même Dieu. Claude travaille au bureau d'érable. Il fait du grec. Il n'a pas mon nez pour le verbe. Il est gentil, vif et doux, il tousse parfois. Claude, mon seul ami, qui veut aussi comprendre le monde. J'ai mal, à gauche. Madame Bulteau veut que je divorce. Note. Madame Bulteau avait également souhaité qu'Anna de Noailles divorçât de son mari. Comment tout cela finira-t-il? 10 heures du soir. C'est enfin le 1er mai. On entend du tambour du côté des arceaux et des trompettes populaires. Tout ça m'aidera peut-être à mourir avant le mois d'août. C'est en août qu'Édouard Bourdet emmène Claude. Quel dégoût! Revenir avec lui? Comment pourrait-on savoir ce que cela signifie? Même mes amis ne le soupçonnent pas, et moi-même, je ne sais plus mettre d'image sur cette horreur qui m'envahit quand je ressens le passé. Il faudrait se souvenir minute par minute du supplice que ce fut d'être apparié corps contre corps au gros Bourdon, sa vanité fidèle. Il n'y a qu'à la vanité qu'il a été fidèle. Et ses conceptions du monde, non pas du monde, des hémisphères d'en bas la ceinture, qu'il exposait avec sécurité, puis son silence et son large dos affaissé dans un fauteuil, à contre-moi, pour ne pas voir les yeux de Karine où passaient les étoiles, et puis le brutal mépris de toutes les phrases qui tombaient en oukase, et puis sa haine, et pire que sa haine, ses étreintes, parce qu'il avait bien dîné. Couche-toi et ne parle pas. Qui m'aurait lavé de cet amour, si ce n'est André? Le tambour marche comme le pouls d'un fou. Le pouls, P-O-U-L-S. Samedi 1er mai, le lendemain, 1920. Le magistère est venu ce matin, il a dit « Puisque vous n'avez plus confiance en moi, il a dit, vous savez combien ce qui vous touche, etc. » Je crois bien que j'ai répondu que ça me faisait une belle jambe. Voici comment il voit l'affaire. Monsieur Bourdet exige que je reprenne la vie commune, sans quoi il emmène son fils. Donc, je vais demander le divorce. On prononcera le divorce contre moi pour refus d'habiter le domicile conjugal et l'on confiera Claude à tout jamais à monsieur Édouard Bourdet. Peut-être me permettra-t-on de le revoir un mois par an. Du moins, c'est ainsi que ce professeur de droit civil établit l'équation d'une destinée. Et l'on assure qu'il a une tête de mathématicien. Cependant, il n'ignore rien du passé de M. Bourdet et du mien. Il me sait, vis-à-vis de ce mari-là, plus net qu'aucune autre. Il le sait, vis-à-vis de moi, plus coupable qu'aucun. Je vais espacer le magistère. Je ne puis plus le voir, il me fait mal. Il est le rappel cruel d'un bonheur imaginaire, d'un leurre agréable. Quand il disait... Cette dame est très regardante, au lieu de avare, quand il versait de l'eau dans le Mont-Rose 1895, quand il assurait que le XVIe siècle est supérieur, puis prouvait n'en avoir rien lu, quand il écoutait une musique divine en la subissant comme du shampoing, quand il n'avait pas le temps de lire un chapitre capital, quand il faisait la théorie du socialisme sans connaître Marx, quand il ne prenait de tub que pour l'été, quand il s'esbaudissait d'être très bien avec l'adjoint du maire de Marseille. Ça n'était plus possible de lui répondre. « Oh, mon cher le meilleur !» Mais cela, c'était des instants. Et je croyais arriver, par force et par ruse, à lui faire humer le Mont-Rose, ignorer la dame et l'adjoint, lire Rabelais et Charon, examiner Marx et se laver l'hiver. Tandis que le reste, je n'y puis rien. Quel reste ? Le reste, c'est Bulto. Et c'est la machine pneumatique, je précise. Quand je l'ai présenté, et eux, peut-être, note de la lectrice, s'agit-il de la machine pneumatique. Quand je l'ai présenté, et eux, à Bulto en février 1919, elle était encore ce que j'aimais le mieux au monde. Elle et moi. Qu'elles sont graves jusqu'aux sphères d'en haut, qu'elles clochent d'or, mais il l'a prise pour confidente. Il n'y a peut-être rien qui touche davantage une femme qui n'est plus jeune que de tout savoir des amours d'un homme, puisque cette confidence n'est pas injurieuse à sa personne qui ne peut plus être caressée. Comme elle l'est, quoiqu'il ou elle proteste, si la confidente a 20 ans. Il est vrai qu'alors ça peut bifurquer. Enfin, Bulto, quoique démon majeur, a été violemment captivé par cette histoire. Seulement, les confidences étaient du genre traîne de deuil. Traîne, T-H-R-E, accent grave, N-E. Tant qu'elles attirèrent la phrase, il faut qu'elles comprennent qu'elle en est avec vous au point où il faut tout perdre ou tout donner. Ici, je dois reconnaître que je fus faiblarde, incapable de tout donner. Le petit essai, pleurante comme Iphigénie, et le petit essai, riante de mépris, et la reprise farouche. Alors, pour m'en tirer, je promis le mariage. Et puis, cette année, au début de l'hiver, après l'examen glorificatoire, et mordu par la passion des concours, et comprenant qu'on ne fait pas bien une licence assise sur les genoux d'un monsieur, même plein de ménagements, bon, je dis non, je ne me marie plus. C'est ce soir quand moi-même, et vraiment pour la première fois, j'ai refusé son amour. Non, si je dois vous payer de tout l'univers. Moi, Gilbert, j'aime les hommes. J'aime les passants, les marchands, le libraire, le philologue et le médecin. Et ça comprend les femmes délicieuses qui croient mentir et disent la vérité. Je ne puis renoncer à eux pour vous, qui ne me donnez que vous, que votre ambition ou votre sourire, que votre souci. Et même cette lourde à porter, lourde à supporter, fin de mois, fin F-A-I-M, que vous avez. Ce n'est encore qu'un retour vers vous-même. Vous aimez le génie qui augmente votre pensée, la rend claire, la volonté qui vous force d'agir. Avez-vous aimé mon travail une heure? Vous n'aimez que ma peine, parce qu'elle me jette dans vos bras et que vous vous sentez plus fort par l'illusion d'une protection précieuse. Tout cela est amer, comme de la cendre sale. Quelle étrange aventure que cet amour de l'homme qui n'est plus jeune et sa tentation depuis 2 ans, qui finit ici. 4 mai 1920 plus 3 jours. Que c'est compliqué de s'expliquer sa vie à soi-même. Le changement de direction profond qu'implique cet hiver est certainement le fait de... l'université. Je marche, depuis que je travaille, suivant des programmes préparant à des diplômes, dans ma voie. Ces sourires de pitié des gens intelligents ne peuvent empêcher que, pour avancer dans une science, il faille se soumettre à une règle. J'ai quitté le dilettantisme depuis que j'ai pris le harnais des baccalauréats. Si la faculté ne m'obligeait pas à savoir des choses qui m'ennuient, je n'arriverais pas aux choses dont j'ai soif. Il a fallu que j'y sois forcée pour apprendre la syntaxe de Cicéron. Il faut que mon programme exprime les lois en équations pour que j'aie mangé cette algèbre de suie qui rend la bouche noire et le cerveau dur. Mais parce que je lis Cicéron, je sais à présent quelque chose du vol d'un vers de Virgile. Et parce que je vais construire une égalité, je comprends la formule de vie moyenne d'un atome. C'est à ce point de ma vie, ce point percé de tous les rayons qui tombent de l'anti-soleil, le globe invisible aux têtes humaines, que l'on offre de me remarier, oui, avec Dionysos. 5 mai 1920, le lendemain. Le monsieur seul de l'étage, au-dessus, est mort subitement. Cela change quelque chose à mon salon ce soir, ce cadavre au-dessus. Il fait pont jusqu'à l'invisible. Je ne suis pas sortie. J'ai, rêvant de tout mon effort sur un problème de physique, passé une heure délicieuse dans le fauteuil beige. La grande baie ouverte, où bruit l'arbre heureux, le ciel, à peine azur. Magister est venu, il est tout en tourbillon autour de la nationalisation des services publics, il est posé sur la nationalisation comme ma petite casserole brune sur la braise, et il boue, je l'ai trouvé intelligent, sans doute sera-t-il un homme d'État malgré tout. Il me regardait parfois avec tant de mots derrière la figure que je ne l'aidais pas à dire, et je le regardais, ainsi l'aviateur, sur qui s'effiloche encore un pan de nuage, regarde l'excellent mineur. Le magistère sait que je l'estime, lui, très médiocre magistère. Quelque chose comme le professeur de natation qui laisse son meilleur ami se noyer. J'ai reparlé de toute l'affaire Bourdet ce soir. Il m'écoutait, se révoltant de ce que je le nommais vol, de ce que je montrais à ce printemps passé de mes débats avec l'avocat malhonnête qui s'était chargé de ma cause, tout en étant le conseil des frères Bourdet pour les usines du Triel, et donc n'avait qu'un souci, ne pas plaider ma petite affaire, car c'eût été se voir enlever la grosse affaire, et mon seul ami ne rompant pas avec le malhonnête homme. Je ne peux pas écrire. Je ne sais même plus mettre au net le passé. Je suis au-dessous de la forme de ma vie. Je voudrais mourir. Cette belle ascension vers les étoiles, au-delà des étoiles, malgré mon destin, elle finit là. La quête de l'amour, toute une jeunesse folle de chasteté. L'esclavage, 5 ans, près du vaniteux ami des poules. Et puis le torrent d'air pur qui balaie ma vie, André. La guerre. Le 1er juin 1916. La phtisie. Papa tué par un fou. Le travail, une sorte de guérison. Et maintenant le gros hanneton, pas méchant, dur et sympathique aux dames, tendre seulement sur le plateau, qui vient chercher Claude. Chercher Claude. Chercher Claude. J'ai une robe bleue. Je suis si maigre que cela n'a plus d'ombre. Ma figure fait absolument creux, avec 2 yeux. Et je ne mourrai jamais. 13 mai 1920 plus 8 jours. Le magistère a fait hier soir une conférence sur la CGT à l'Université populaire. Marchand d'olives et marchand de vin, concierge, quelques professeurs. Le matin avait paru l'annonce de la dissolution de la maison rue Grange-Aubel. Note. La CGT venait d'être dissoute à la suite de la grève des cheminots du réseau PLM en février, puis de la grève des chemins de fer et de la grève générale du 1er mai. Le gouvernement Mitterrand, sous la présidence de Paul Deschanel, réussit cependant à redevenir maître de la situation. L'annonce de la dissolution de la maison rue Grange-Aubel. Il parle comme l'on parle dans un cours bien fait. Division nette, jolie voix stable et sûre, sans effet. Articulation nette qui porte, mais débit trop lent, en quelque sorte en arrière de la phrase. Il faut aller de l'avant, il faut entendre à mesure que l'on parle, entendre en soi résonner le mot qu'on va dire et non celui qu'on a dit. J'ai promené Claude ce soir, avec effort. Mon corps est plus lourd, plus il est mince. Je n'ai pas commencé à retravailler encore. Je suis comme penchée sous la menace du destin avec l'orage Bourdet au-dessus de moi. Je ne passerai pas ma philo en juillet. Ce sera le plein procès si l'on présente bientôt la requête. Je la passerai en octobre si je suis encore là. Quelle drôle de vie. Il vaudrait mieux finir le De Libertate, en tout cas. Sans cela, Jacques Rivière, note. Jacques Rivière, 1886-1925, beau-frère d'Alain Fournier, était l'un des fondateurs de la Nouvelle Revue Française. Il en sera le directeur de 1919 à 1925, date à laquelle il mourra prématurément, emporté par une fièvre typhoïde. Catherine Pozzi a travaillé à son traité philosophique, le De Libertate, en pensant essentiellement et d'abord aux lecteurs de la NRF. Reprise. Sans cela, Jacques Rivière n'y comprendra rien. Finir le De Libertate, et puis à la grâce de Dieu. Ah, je ne sais pas si je suis protestante ou catholique. Si j'étais catholique, si je serais protestante, je ne sais pas si j'ai peur de mourir. 15 mai 1920, plus de jours. Le même matin où la poste m'apportait l'ultimatum Bourdet, ou recommencer le mariage ou perdre Claude, je recevais aussi une lettre de Femina. Je lui répondais à elle en la suppliant de me sauver. Je crois bien n'avoir rien mis de plus intelligent que « C'est Dieu qui vous envoie ». J'ai pu croire 8 jours qu'elle allait voir l'avocat malhonnête qui accepta de me défendre, bien qu'il soit l'homme d'affaires de mon mari, et lui retirer mon dossier ou l'obliger à me servir. C'était mon seul espoir. Il est déçu. Quand le magistère m'a appris cela, il venait de recevoir une lettre d'elle. J'ai vu les vagues de la mer Rouge se refermer sur moi. Et comme le magistère essayait de me consoler, je crois bien que j'ai été violente, comme en d'horribles révoltes de conscience et de lucidité inutiles. J'ai vu le magistère qui s'en allait dans la rue à grands pas. S'il était revenu, comme je me serais cachée en lui. Car c'est Madame Bulteau qui m'a manqué, et c'est lui que je renvoie. J'ai porté à la poste ma réponse à Bourdet. Comme je remontais la rue nationale, deux agents se ruaient sur une pauvresse, sur un morceau de chiffon, avec un visage orange. Il la poussait, il l'entraînait, elle avait sa robe défaite et le dos nu, elle résistait, comme un animal qu'on tire pour le tuer. L'agent de droite était blond et « joli garçon !» Et il riait. Mon Dieu, j'ai failli étouffer. Je n'avais pas mon porte-monnaie pour racheter la malheureuse. Je l'ai vue disparaître au milieu de la pitié publique. Avait-elle volé une paire de bas ? Du profond de moi se levait une terreur épouvantable, une nausée à tordre l'âme, cette malheureuse en prison pour ce rien, et moi qui vais perdre mon fils avec l'appui des lois. Vive l'ordre public. 21 mai 1920, plus 6 jours. Le magistère est revenu, il était... Son visage n'était plus rien, plus ce solide, plein de sécurité d'autrefois, plus cette santé prudente et sereine, mais de la chair déformée par l'âme, il pleurait. Après la façon dont vous m'avez parlé, j'ai dit « Cela ne fait rien. Comptons pour rien ces choses entre nous. Restons ensemble, vous dans ma vie, moi dans la vôtre. Seulement, puisque vous ne pouvez pas me sauver, je demeurerai la femme d'Édouard Bourdet. Il faut espérer qu'il ne viendra pas trop souvent. » Il a répondu « Donnez-moi 15 jours, ne faites rien. » Et j'ai vu qu'enfin, il allait tâcher de me défendre. Cher magistère, vous mon seul ami, vous que j'ai retrouvé. 22 mai 1920, soir, le lendemain. Je pars après-demain pour Paris, il faut louer un appartement pour l'automne et le printemps, car ici je passerai tous les hivers qui restent, et il faut approuver la requête que les corbeaux préparent. Je pars sans avoir vraiment peur, un optimisme transcendant. Aujourd'hui, j'ai visité un pavillon à acheter, qui sera sans doute à moi, parce que je sens que ce doit être ainsi, parce que ce jardin fermé semble situé pour enfermer Karine prochaine. Mais quel étrange pavillon et quel jardin ! Il appartenait à une grande famille d'autrefois. À présent, une grue l'habite en usufruit, et cette vie charnelle et contente s'y ébat entre deux maquereaux, dont un enfant mineur. Elle nous a reçus en peignoir grec, avec un gâteau de henné sur la tête, enveloppé de serviettes, elle a de jolies jambes, elle m'offrait du champagne, mais la maison... Trianon, plus pensif et plus délicieux, à rendre Jean-Louis, note, Jean-Louis Vaudoyer, à rendre Jean-Louis perdu de joie. Les boiseries au rythme de caresses partout, les meubles vrais qui n'ont pas bougé de là depuis 200 ans, et la corbeille de fruits en pierre au fronton, la terrasse que les pins cernent en retrait et que garnissent les orangers, lieu de calme triste dans du soleil. On voit la ville grise, noire et bleue qui nage au loin comme toile de vieux peintre, et puis le temple du Pérou, et puis la mer. Mais dans toute la maison, il semble que depuis 200 ans, on n'ait pas cessé de faire l'amour. Des plafonds roux et ronds comme des seins. Sur chaque lit à la soie délicieuse, la forme, l'entéléchie d'une femme est courbée de plaisir. Est-ce donc là que je vais continuer par le SPCN, la licence S-Sciences? Que ferais-je contre cette maison? Faudra-t-il qu'elle cède, comme cet appartement-ci a cédé? C'est empli de dures pensées. Qui sera plus fort? L'esprit passé janséniste ou l'enchantement des enchantements passés? Une maison comme cela, c'est plus puissant que l'aventure. D'ailleurs, elle ne sera peut-être pas à moi. Et puis, je suis plus forte même que toutes les mortes mêlées à ces murs. Si je l'achète...
Curieuse, curieuse expérience. Paris. Hôtel Plaza, Athénée. 11 juin 1920, 21h30. Je suis là depuis le 30 mai, depuis 12 jours. Je n'ai pas pu noter avant ce soir où j'en étais, même en 10 lignes. Je n'ai pas été seule 10 minutes. Il me... etc. 12 juin 1920, le lendemain. Panne d'électricité hier sur ce dernier mot. Donc je n'ai pas été seule. Depuis le dimanche de l'arrivée, mes amis sont là. J'avais donc des amis. Marie de Régnier, note. Marie de Régnier, 1875-1963. Fille de José Maria de Heredia, épouse de Henri de Régnier. Belle-sœur de Pierre Louis, d'Auguste Gilbert de Voisin et de René Doumic, était une amie d'adolescence de Catherine Pozzi. Leur père fréquentait les mêmes salons littéraires, dont celui de Madame Geneviève Strauss, et possédait un grand ami commun, le comte de Lille. Marie de Régnier, sous le pseudonyme de Gérard Douville, commença à publier ses vers dans La Revue des Deux Mondes en 1894, puis à La Revue de Paris, et ne tarda pas à se mettre au roman et au théâtre. Elle fut la première femme couronnée par l'Académie française en 1918. Bonnie de Castellane l'a décrite ainsi. Gérard Douville est une personne exquise, dont les yeux perçants traversent votre front pour aller directement voir dans votre cerveau ce qui s'y trouve. Restée l'amie fidèle de Catherine Pozzi, Maricotte lui dédiera un roman, Le Chou, édition du Divan en 1924, et préfacera l'édition posthume de Peau d'âme en 1935. Reprise. J'avais donc des amis, Marie de Régnier, René et eux, René de Brimont, Violante, Paul, André Troisier, dit Reine des Crèmes, note, André Troisier, est un ami d'enfance de Catherine Pozzi qui, adolescente, méprisait son manque d'amour-propre. André Troisier d'Irène Descrèmes se sont jetés sur moi d'abord, puis des oubliés comme cette Godard de Cray, note Madame Godard de Cray, veuve de Paul de Thomas, mort à la guerre, comme ce Madrazo, note Frédéric de Madrazo, artiste peintre et décorateur, notamment du Dieu Bleu, ballet créé avec Jean Cocteau et Reynaldo Hahn, qui inaugura avec succès à Paris la saison des ballets russes de 1912. Comme les de Jonquière, qui sont hôtes momentanées du Plaza. Et enfin, le côté de par chez Bourdet. Brada, Jeanne Rabier, le côté de ceux devant lesquels s'est vécu mon vieux mal. Et revoir très amer, mais ordonnons. J'ai d'abord été grisée du plaisir qu'on me fêta et qu'on m'aima. J'ai vécu la première partie de la première semaine comme une jolie petite jeune fille se promène dans son premier bal. Oh, Karine, équation, je dépique un papier du mur, les rendez-vous, Franz Cumon, note, Franz Cumon, associé étranger à Rome, de l'Académie des inscriptions et des belles lettres, était un ami de Madame Bulteau. Les rendez-vous, Franz Cumon dimanche, prévenir samedi duchesse de Clermont-Tonnerre, note. La duchesse de Clermont-Tonnerre, demi-sœur du duc de Guiche, était une grande amie de Nathalie Clifford Barnet, de Proust et de Gustave Le Bon. Lily, qui portait le monocle, donnait dans son salon de la rue Raynouard des fêtes, parfois organisées par Bonnie de Castellane et des lectures. Elle fut l'une des toutes premières à reconnaître la valeur politique de Léon Blum. Elle laissera 4 tomes de mémoire, publiés sous son nom de jeune fille, Élisabeth de Gramont, dans la collection Les Cahiers Verts que dirigeait Daniel Alévi, édition Grasset, 1928, 29, 32, 35. Reprise. Samedi, duchesse de Clermont-Tonnerre, mardi, Bulteau, mercredi, Kinner, lundi, Brimont, fin de journée, fermez les guillemets, puis un second, où sont les numéros de téléphone? Le téléphone ne cessait de sonner, j'ai pris une autre chambre depuis, où la veine fait qu'il n'y en a pas, donc j'ai vu d'abord Marie de R., La Falaine Rose, qui m'aime de loin jusqu'à m'écrire spontanément, au moins 2 fois par an. Pourquoi? Parce que je ne suis pas rosse. Qu'elle respecte mon petit cerveau et sait que je ne prendrai pas ses amants. Et aussi parce que, et aussi seulement peut-être parce que je l'admire. Il y avait dans ses vers de la revue des Deux Mondes, janvier ou février, une image qui m'a fait Dionysaké sur l'unité de la physique et du verbe. Note, revue des Deux Mondes, janvier ou février, note, c'est dans son numéro du 15 décembre 1919 que la revue des Deux Mondes a gardé des poésies de Gérard Douville, Marie de Régnier. Elle s'est trouvée là en même temps que Margot de Jonquière, note, une amie d'adolescence de Catherine Pozzi. 2. 2 roses à Bernstein, note. Henri Bernstein, 1876-1953, auteur dramatique de l'école naturaliste, défraya la chronique de la belle époque à la Seconde Guerre mondiale par ses déclarations antimilitaristes, ses amours donjuanesques et ses multiples duels. Il était l'ami de Samuel Pozzi. Reprise. 2 roses à Bernstein. Comme depuis la cueillaison, d'autres heures avaient coulé sur chacune. Elles se sont poliment souries. Puis, Bulteau. Elle est, celle-là, venue un matin à 11 heures. Je ne serais pas allée chez elle. Retourner chez elle la première. L'affaire Fourcade m'avait hérissé le poil psychique à son propos. D'ailleurs, je ne comprends plus, Bulteau. Écrivons ça et continuons. Chez René et eux, chez René de B, note... René de Brimont, goûter musique, Il y avait là les 10 plus nobles Sappho du temps, dont la vieille Polignac, note. La princesse Edmond de Polignac, 1865-1943, née Vinaretta Singer, guillemets, grande prêtresse de la musique, fin de guillemets, tenait en guise de salon une académie musicale fréquentée par Proust, Poulenc, etc., où elle donna de nombreux concerts sur invitation. Son second mari, Edmond de Polignac, épousé en 1893 et décédé en 1901, était compositeur de chants chorales, de romances, d'opéra. Winnie, qui animait son cénacle en jouant elle-même de l'orgue, avait traduit Walden ou La vie dans les bois de Thoreau pour La Renaissance latine, revue fondée et dirigée depuis 1902 par Constantin de Brancovent, le frère d'Anna de Noailles. Reprise. Les 10 plus nobles Sappho du temps, dont la vieille Polignac et Clermont Boum Boum. Ce surnom qui n'est pas sans rappeler l'enseigne du cirque Medrano, le cirque Boum Boum, alors boulevard Rochechouart, désigne Élisabeth de Clermont-Tonnerre. Reprise. Et Clermont Boum Boum. Celle-ci précipitée à mon canapé, et j'ai eu 10 minutes d'un snobisme imbécile qui m'a fait l'inviter à dîner. J'aurais invité les 10 ardentes d'ailleurs, tant je marchais sur la gloire de plaire, tapis bien doux. Ma robe de calot était exquise, et je redevenais jolie, invention étonnante, et plus jeune qu'elle, Polignac hors concours, ce qui me faisait bercer l'âme dans ma peau. Preuve, la demande du peintre. Note. Il peut s'agir, dans cette assemblée, des 10 plus nobles Sappho du temps, du peintre Romaine Brooks, que femme, que la princesse de Polignac avait accueillie en France en 1908 et qui vécut avec Nathalie Clifford Barnet. Elle lança à Paris la mode du noir et du blanc en décoration et fit poser les femmes du monde les plus marquantes de son époque, Élisabeth de Clermont-Tonnerre, Anna de Noailles, etc. Reprise, preuve, la demande du peintre. Cependant que, de dame en dame, je traversais ce temps, tombant du ciel parisien, le magistère était en la cité. Il m'avait suivi à peu de jours de distance, afin de débrouiller le divorce. Et ce n'était pas la complication la moindre que cette chère présence exilée au petit hôtel Louvois, au bout du téléphone, voix anxieuse à souffle raccourci par le cœur. « M'entendez-vous ? Vous savez comme je pense ?»« Si, je savais. » 17 juin 1920, plus 5 jours. Le magistère est resté 8 jours. Je ne le voyais guère qu'une fois, l'après-midi ou le matin, quand il montait en faisant annoncer le docteur, truc indigne. Ainsi, nous deux, entre qui rien du tout, obligés de mentir jusqu'à gâcher notre alliance. Avec lui, j'ai été chez Fourcade, et passive, ce poisson m'a fait sauter dans le filet juridique. Guillemets. Nous n'avons pas d'armes. Vous n'obtiendrez pas la garde de l'enfant. Il ne faut pas faire le procès. Tel est le thème. Il oublie que pas d'armes, c'est volontaire. Ainsi, n'y a-t-il pas eu moyen de faire constater au défenseur étrange la vie désordonnée, coupable au sens connu d'Édouard Bourdet, quand au mois de juin passé, je mis l'affaire entre ses mains, en 10 mots. Fourcade, avocat conseillé par le magistère, et en même temps il se trouve l'avocat d'Édouard Bourdet, de la famille Bourdet, pour une affaire industrielle, plâtre de Trille, n'a cessé en cette raison de ménager l'adversaire, m'a empêché de divorcer, puis a fait traîner 1 an. Le magistère, dont la bonté est impuissante et l'énergie égale à 0, n'a pu ni diriger Fourcade, ni se décider, ni le dessaisir en lui disant son fait en 3 mots. Et cette fois encore, il était là, mon « gardien », comme il s'intitule. Cela fait bien rire Suzanne. Note. Suzanne Poncet, dite violente. « Mon gardien », comme il s'intitule. lourdement assis et silencieux, pendant que l'autre, littéraire et moustachu, gascon diplomate, causait devant son téléphone en me démontrant que l'agneau n'a jamais aucune évidence contre le loup. Je pars demain. Je vais écrire enfin à ce pauvre monsieur l'ancien bâtonnier pour qu'il ne se mêle plus de ma petite destinée. Ça ira comme ça pourra. Du Languedoc, le magistère m'écrit et me télégraphie. Guillemets. Comptez sur chien de garde. Fin de guillemets. Et me télégraphie tant qu'enfin je le tranche de moi. Ce magistère, excellent et vide de force, bon à consoler, qui n'est pas bon pour l'effort et qui, si bien placé de tout son poids devant ma maison, n'empêche d'y entrer aucun malheur. Revue Bulto. Il y avait Monseigneur, note. Monseigneur Duchesne, 1843-1922. Prélat et historien ecclésiastique, membre de l'Académie française depuis 1911 et de l'Académie des inscriptions et des belles-lettres, était directeur de l'École française de Rome, grand ami de Madame Bulto qu'il a connue à Rome en 1903 et d'Anna de Noailles, cet auteur de savants travaux d'histoire théologique fut apprécié pour son modernisme et sa causticité, mais aussi attaqué pour ces mêmes raisons. Catherine Pozzi eut une importante correspondance avec Monseigneur Duchesne, qu'elle rencontra dans l'entourage de Madame Bulto, mais ses lettres furent détruites dans un incendie. Revue Bulto, il y avait Monseigneur, la chère vieille vie souriante qui dit sa phrase et fait sourire, et tour à tour Cumon, blond dans sa jaquette où il souffle du vent, Canet, note. Henri Canet, avocat, sec dans sa violence, Chimay, fifi fanée à langue pointue, la préférée de Femina, note, Chimay, la princesse Alexandre de Caraman-Chimay, 1879-1929, née Hélène de Brancauvent, était la sœur cadette d'Anna de Noailles. Elle écrivit L'Exclu, UE, édité par la Renaissance latine, revue que dirigeait son frère Constantin de Brancauvent en 1902, puis se mit à faire de la sculpture. Avec Henri Gonce et Maxime de Thomas, elle formait effectivement le trio des préférés de Madame Bulto. Reprise, Fifi fanée à langue pointue, la préférée de Femina. Les gens intelligents disent des choses. Au fait, quelles choses disent-ils ? Des choses qu'il est impossible de définir bêtes, et qui sont cependant à l'intelligence ce que la politesse est à la beauté, une sorte de copie grise de l'eurythmie inaccessible. Ce n'est pas bien, ce n'est pas mal. Ainsi les réponses d'un candidat qui ne serait ni fausse, ni pourtant celle qu'on veut, c'est vague, vague. J'ai dîné avec Martin Dugard, note. Maurice Martin Dugard, 1880-1958, grand ami d'André Fernet et des Siegfried, allait bientôt être nommé administrateur délégué avec Jacques Guène des Nouvelles littéraires, dès la création du titre en 1922. Il laissera 3 tomes de mémorables, 1957, 1960, 1978, où l'on retrouve les portraits de quelques-unes des relations de Catherine Pozzi et celui de Madame Mühlfeld en particulier. J'ai dîné avec Martin Dugard chez les Siegfried. Le lendemain, lui ai écrit de venir me voir, sans autre explication qu'une phrase qu'il pouvait seul comprendre. Il était le meilleur ami d'André. C'est un crétin. 2 heures de discours m'ont appris qu'il méprisait l'intelligence et souhaitait créer. Dégoût. Jean-Louis Vaudoyer est devenu gras. Il m'a apporté un portrait de sa mère que j'aimais. Note. La mère de Jean-Louis Vaudoyer, Geneviève Breton, 1849-1918, d'abord fiancée au peintre Henri Regnault, se maria en 1880 à l'architecte Alfred Vaudoyer. Elle a laissé un abondant journal dont une partie a été éditée récemment. Journal 1867-1871, édition Ramsay 1985. Reprise. Un portrait de sa mère que j'aimais. Il sera un petit peu mon ami pour cela, pas beaucoup. Du moins, dans sa vie, j'ai la place curieuse d'être la seule jeune femme à laquelle il n'ait pas dit les trois mots roses. Ça me fait craindre un peu d'être peut-être chameau. J'ai dit ce doute à S. P. Note, Suzanne Poncet, qui a éclaté de rire. Et puis, je pars. J'en ai assez de Paris. Paris est trop cher. 30 francs pour déjeuner d'une côtelette, zut. Paris est trop plein de voitures glissant vite. Où sont des gens qui volent à l'amour? Et mon algèbre, et ma chimie. Cependant, Clermont-Tonnerre, Brimont et Paul Valéry qu'elles amènent dînent à ma table ce soir. Note Paul Valéry. Paul Valéry, 1871-1945, qui, depuis la fin d'un long silence éditorial, fréquente les salons, en particulier celui de Madame Mulfeld, est à l'âge de 49 ans à une période cruciale, à un tournant de sa carrière littéraire. Les vers de « La jeune Parc », édition Gallimard, 1917, la réédition de « La soirée avec Monsieur Test », édition Gallimard, 1919, et celle augmentée de « L'introduction à la méthode de Léonard de Vinci », édition Gallimard, 1919, ont fait de lui un poète en qui l'on veut voir plus que le seul héritier autorisé de Mallarmé, mais aussi un écrivain, un penseur, capable d'établir les plus brillantes équations entre science et littérature. 28 juin 1920. Hôtel de Paris, La Bourboule, plus 10 jours. C'était il y a 10 jours. J'étais descendue à 8h-20, téléphonée à G. da Sosea, car sa femme, la gaie Magali, était mourante. On m'avait prévenu que la duchesse de C.T. ne pourrait dîner. J'attendais seulement Paul Valéry et René, de Brimont, qui me l'amenaient. J'étais encore au téléphone et Paul Valéry arrivait et demandait « Madame de Brimont n'est pas là ?» avec une inquiétude où il y avait la crainte du salon étranger où nul visage ne répond, de l'ennui, du dédain. Et certainement pas de la politesse. Au téléphone, j'apprends qu'elle agonise, qu'elle sera morte demain. Magali, oh Magali, ma bien-aimée, celle qui riait, je la vois à travers les paroles qu'on me dit. On lui a donné tant de morphine qu'elle ne souffre pas. Paul Valéry m'attend au salon. Il est assis, tout étroit, sur le canapé du fond, ou bien il feuillette les journaux, comme font les gens. Je reviens vers lui, je ne veux pas lui parler de son frère. Note. Jules Valéry, que Catherine Pozzi a connu à Montpellier dans l'entourage de Gaston Morin. Je ne veux pas lui parler de son frère par qui je le connais, le stupide doyen. Je sais qu'il méprise cette âme basse. La salle à manger était grise et rose, quelques femmes déshabillées assez peu. La musique discrète est vraiment un luxe fin, silencieux, que le nouveau riche n'habite point. René E, était aussi mal vêtu que jamais, avec un ridicule chaperon d'or, mais joli. J'avais une robe grecque de Vionnet, note. Madeleine Vionnet, grand nom de la haute couture parisienne. Tunique noire, sans rien, et 100 000 francs de perles. Paul Valéry n'a vraiment parlé qu'à elle, pendant les trois quarts du repas, et je le notais avec une algébrique fraîcheur et une indifférence qui est beaucoup plus étonnante que je ne croyais. Je savais que c'est moi entre tous les êtres qui dirait les paroles de vie que vous seulement, ô Paul Valéry, pressentez. Penchez-vous vers Brimont qui est baronne. Vraiment, alors, snob, cela, seul héritage du frère gonflé? Ne suis-je pas Patrice? Note. Catherine Pozzi fait ici référence à sa noble grand-mère Esco de Mélon, de la branche Pozzi. Je puis attendre, ô PV. J'ai l'éternité. Il lui a dit d'abord, tournant la tête vers moi par fin de phrase, puisque j'étais l'hôte, qu'il avait retrouvé une seconde version de l'après-midi d'un faune de Mallarmé. Note. Paul Valéry avait été chargé avec Gide de mettre de l'ordre dans les papiers de Mallarmé, mort en 1898. Or, en 1920, a été retrouvé dans les archives du compositeur Chausson une version inédite de l'après-midi d'un faune pour laquelle on demande une préface à Paul Valéry. Il refusera, se retranchant derrière la volonté de Mallarmé de ne rien publier d'inédit après sa mort et de brûler ses lettres. Henri Mondor publiera ce texte en 1948 dans Histoire d'un faune aux éditions Gallimard. Reprise. Retrouver une seconde version de l'après-midi d'un faune de Mallarmé. Il a cité un beau vers, la nymphe qui se sauve en rejet. Brimont, quand elle ne trouve rien à penser, sourit et se regarde d'un œil de côté dans la glace du mur. Absolument calleuse au fait que je suis le troisième convive toléré, je parle, que m'importe, je vis ma vie, PV est là, il suffit que j'existe, il le sentira tôt ou tard. Il l'a senti vers le dessert. À propos de science, je parle du livre de Housset, note. Frédéric Housset, 1860-1920, biologiste, spécialiste de la morphogenèse des êtres vivants. Il a écrit « Force et cause », Flammarion 1920, ouvrage que Catherine Pozzi avait lu en avril. Je parle du livre de Housset et puis expose une idée qui est valérienne. Cela, j'en ai le regard aigu. L'idée de la réversibilité de la loi de Carnot dans le monde de l'esprit. Note. Loi de Carnot. N.L. Sadi Carnot, 1796-1832, a démontré que pour recueillir du travail en fournissant de la chaleur, il fallait disposer de deux sources de chaleur, le liquide empruntant de la chaleur à la source dite chaude et en cédant à la source dite froide. Toute la chaleur ne peut donc pas être transformée en travail. L'hypothèse de la réversibilité du principe de Carnot avait été évoquée par Paul Valéry dans « Notes et digressions », suivie de « L'introduction à la méthode de Léonard de Vinci ». Reprise. L'idée de la réversibilité de la loi de Carnot dans le monde de l'esprit. Et puis, nous parlons d'Einstein. Note. Paul Valéry avait tout récemment traduit et condensé pour la NRF du 1er décembre 1919 un article anonyme paru dans la revue anglaise « L'Athénéum » et portant sur les travaux du futur prix Nobel 1922. La théorie de la gravitation selon Einstein. Reprise, et puis nous parlons d'Einstein, et j'explique mon image du temps, quatrième dimension de l'espace. Il répond, avec une rapidité étonnante, une adresse, une maîtrise à saisir le fil d'or que je n'ai jamais vu. Jamais en vérité. Le temps est-il espace, selon lui, dans l'effort statique? C'est très intelligent comme objection. Je réponds qu'alors, il y a déplacement physiologique, quoique invisible. Nous parlons. Je crois bien que c'est moi qui parle. Et lui. Brimont ne dit plus rien, ne comprend évidemment pas. Nous sommes en pleine physique. Maîtresse de maison égoïste, cela m'est égal. Qu'elle s'ennuie, qu'elle s'ennuie.
Il y a la glace, petite distraction, René et eux, de côté. Moi, j'ai aperçu l'étoile. Excédé, vers 10h15, René part. Et nous entrons dans le salon, PV et moi, nageant déjà à grands élans dans un dialogue fascinant qui continue et continue. Et soudain, il me dit, avec presque de la timidité, « Avez-vous lu mes derniers vers dans la Nouvelle Revue Française ?» Note, la NRF avait publié, dans son numéro du 1er juin 1920, « Le cimetière marin ». Non, je suis abonné, mais ne la recevrai qu'en retard, note. Catherine Pozzi est abonnée à la NRF depuis 1913. C'est que je voudrais votre avis. J'ai fait quelque chose de nouveau qui m'inquiète. Lentement, d'une voix un peu chantante, il me l'est dit. Et j'écoute avec une telle intensité qu'à un certain moment, j'ai eu peur de mon visage et je me suis retournée pour voir si on le voyait. Ces vers sont plus que je n'espérais d'aucun être vivant. Ils rejoignent la Grèce. Or, deux défauts malarméens, qui sont en leur cristal et que je voudrais arracher, c'est la beauté, musique et forme qui vêlent l'esprit. Ô mon royaume, mon seul royaume, cœur et fin de moi. À 11h, les derniers convives remontaient chez eux. Le concierge debout, statue du reproche. Si ces gens n'étaient pas partis, si ce concierge n'avait pas fait le geste d'éteindre, serions-nous encore à parler, vous et moi? Je vous ai forcé, ô Dieu sauvage. Debout, vous m'avez tenu un quart d'heure devant la porte parlant de vous. C'est vous qui parliez de vous avec un visage nouveau. Mais que puis-je de votre visage? Je ne le connais pas. Je ne le reconnaîtrai pas. Je ne l'ai pas regardé. Note. Paul Valéry notera pour sa part, dans un des cahiers 1922, édition Gallimard, l'effet de cette rencontre avec Catherine Pozzi. Guillemets. Si je me regarde historiquement, je trouve deux événements formidables dans ma vie secrète. Un coup d'État en 92 et quelque chose d'immense, d'illimité, d'incommensurable en 1920. J'ai lancé la foudre sur ce que j'étais en 92. 28 ans après, elle est tombée sur moi de tes lèvres. 5 juillet 1920. Plus 7 jours. Je sais bien ce que je puis vous répondre. Ô mon miracle, et vous le lirez. Peut-être qu'alors je serai morte, mais vous le lirez, et de cette encre violette même sous vos yeux qui ne m'ont jamais regardée. Votre lettre de ce soir est à toucher ce papier posé là, qui m'interroge comme si j'étais la pitié ou l'obscur écho qui ne rendra qu'un peu plus sourd le timbre de votre voix, guillemets. Puis-je être plusieurs? Suis-je le seul? Suis-je compatible avec le nombre? Plus aveugle qu'une taupe, êtes-vous, Apollon? Moi, du moins, je n'ai jamais douté de la lumière. Misérable, ivre de ma différence, j'ai toujours su que moi-même, vivant, existais hors de moi. Était-ce en cet espace, en ce temps, sous ce Dieu? Cela, c'était le possible, et enfin, je le croyais, le possible manquait, mais pour le reste, la foi ne s'en pouvait défaire. Oh, vous pouvez ne jamais plus m'écrire, pensée de ma pensée, et vous pouvez errer vers quel chemin. Je vous ai rejoint 1 heure. Je suis entière pour l'éternité. Jamais je n'ai connu cette certitude, cette sérénité douloureuse, à la fois exaltée, écrasée. 12 juillet 1920, plus une semaine. Suis-je le seul? Puis-je être plusieurs? C'est à présent que je suis votre prisonnière, puisque vous tenez 2 feuilles du De Libertate entre vos mains. C'est à présent que j'ai joué mon destin. Ô dupe, amère, amère destinée, le long ruban, terriblement taché de peine, où la seule pensée qui était le seul bien, n'a jamais trouvé d'écho. C'est à présent que j'ai joué le coup de dé, dont, si je le perds, je sais que je serai vieille en une minute pour toutes les minutes à venir. Vous avez reçu ma lettre vendredi, et c'est lundi ce soir. Voici donc mon beau cœur d'autrefois. Inusé, inusable, désespéré d'espoir au-dedans de moi. Qu'ai-je besoin, ai-je, que vous preniez mes mains tendues? Quel besoin que vous vouliez jouer à ce dialogue qui rend fou, à ce jeu de voir son visage le même, en l'esprit qui est différent mais pareil? Ou il a compris le De Libertate ou non? S'il ne l'a pas compris, pour qui l'écrire? Car pas un au monde, s'il ne l'entend, ne l'entendrait. S'il ne l'a pas compris, pourquoi vouloir qu'il me parle? Il n'est pas moi. Mon maître chéri, cela ne fait rien, ce que je dis là. Si vous venez, je commettrai d'un élan l'action sans pardon possible et je vous laisserai prendre une vie de pensée, ER, de patience pour en faire votre beauté. Qu'importe lequel de nous deux, si la richesse en est laissée aux hommes. Ô mon amour, à qui d'abord il faut que je donne ma gloire. 21 juillet 1920, plus 9 jours. Vous ne m'avez pas répondu. Le 10 juillet, le jour où peut-être vous receviez ces pages du De Libertate et la longue discussion sur la différence, j'ai perdu l'étonnant anneau d'or qui m'avait été apporté de Java la semaine où je vous ai connu et que stupidement j'associais à votre rencontre. L'instant même sur la montagne, note, Catherine Pozzi fait une cure au pied du Mont d'Or, à la Bourboule. L'instant même sur la montagne où j'ai vu qu'il était tombé de mon doigt, j'ai vécu l'horreur de vous perdre. J'ai cherché comme une misérable ce bijou auquel je ne tenais pas, je ne l'ai pas retrouvé. C'est du Maeterlinck bien indigne de votre dure raison, mon maître. Mais je n'ai pas retrouvé la bague hindoue, et vous ne m'avez pas répondu. Je ne sais comment j'ai traîné ces 3 semaines. Il n'est pas possible que vous n'ayez pas compris la pensée de votre pensée. Cependant, vous me refusez. Ne lirez-vous jamais ceci? Vivrai-je pour le déchirer, hélas, demain? Je sens le dur obstacle, le mur haut, dressé, comment, pourquoi? Je ne veux plus vous subir, ayez pitié de moi. Je ne me suis pas marchandée en venant vers vous. Je n'ai pas fait les sourires de prudence, je ne me suis pas ménagé de sortie par le couloir. J'ai été brave, PV. Je vous ai donné d'un coup le secret de ma pensée, ma raison de ne pas mourir. Il n'est pas possible d'aimer comme je vous aime. Avec un regard si clair, si profond sur l'essence de vous, si fraternel, si tendre, sans que vous n'en ressentiez pas un jour la douceur, j'accepterai que vous me refusiez parce que je crois en vous. Si ce n'était cela, je vous détruirais si vite en mon âme que vous n'y laisseriez pas un reflet humain. 22 juillet 1920, le lendemain. Décidé d'aller à Paris, vous étiez peut-être encore. 5 lignes nettes pour vous prévenir. Votre réponse, le surlendemain. Vivre, travailler, consentir à moi-même, atteindre, en allant au bout de ma raison, le point extrême, ou peut-être, vous m'attendez. Paris, 2 août 1920, pleine nuit, plus 20 jours. Mon bien-aimé, c'est donc, ce sera, par vos mains, le don royal. 10 jours et 2 soirs. Presque votre tendresse et sûrement votre adieu. La nuit n'est pas finie. Elle va finir. Tout ce que ce corps a connu et ses nerfs d'extrême douleur depuis qu'ils existent se lève et résonne, mais
avec une sorte de gravité paisible, et comme on entend, dans un coquillage tranquille et vague, l'immense mer. Septembre 1920, plus un mois. Possibilité de le mépriser. Note. Catherine Pozzi a eu depuis l'enfance l'esprit à faire des bilans, exprimés sous forme de tableaux, comme dans sa nouvelle autobiographique Agnès, ou comme ici par une suite de termes allusifs posés aussi sèchement qu'une équation algébrique pour faire le point à l'abri du sentimental. Son bilan est ici non pas tant le sien que celui qu'elle impute à Valérie. Reprise. Possibilité de le mépriser. Histologie. Graphique. Lui. L'étonnement. L'admiration. La curiosité. L'orgueil. Le trouble. L'amusement. L'énervement. Le réflexe, utilisé sans faute, la joie, la certitude, l'espoir, un soir, la mer, MER, la crainte, la tendresse, le doute, et encore la mer, MER, la peur, le raisonnable calcul, et pacte, ce noble pacte, et pacte, ce noble pacte. Est-ce parce qu'il fut accepté que voici le ton protecteur? Ce n'est pas moi qu'il faut interroger, c'est vous. Ou subir ça ou m'en aller. Il n'y a pas d'autre Catherine Pozzi à sortir. Si celle-ci n'est pas assez belle, allons se promener. Il ressemblait à l'absolu. J'ai tiré dessus. Les plombs étaient en vérité. La poudre était en volupté. Je l'ai raté. Il m'achemine vers cet état. L'état de souvenir flatteur. Y consentir? Accepter la lettre bimensuelle? Et de surgir, créer sans le savoir un instant, fantôme sur la fumée d'une cigarette absente? 28 septembre 1920, plus une vingtaine de jours. Voici le matin parfait qui verse cette lumière blonde et bleue que je ne reverrai plus jamais, note. Paul Valéry est à la Grolet, où il séjourne pour la première fois avec Catherine Pozzi. Il restera du 14 septembre au 7 octobre 1920 et décrira la magie du lieu dans Au sujet d'Adonis, préface à une nouvelle édition de cette œuvre de La Fontaine dans la Revue de Paris, 1er février 1921. Guillemets. Cet essai sur l'Adonis fut écrit dans une belle campagne si vaste et si lointainement fermée de futaies et de lignes paresseuses qu'il semblait qu'elle produisit la plus profonde paix comme le fruit de son étendue offerte au seul soleil éclose d'arbres immenses. Reprise. Voici le matin parfait qui verse cette lumière blonde et bleue que je ne reverrai plus jamais. Le monde qui vient après l'esprit. Quelle étrange chose qu'il soit innocence. Bonjour, mon corps qui avait le droit de vivre, bonjour, mon autre corps que je fais immortel. Savez-vous enfin qu'une double unité dépasse toute force de la terre? Laissez-nous demeurer enfermés dans une seule onde de soleil. À 4 heures, la dépêche. À 5, l'auteur dramatique est là. Note, Édouard Bourdet. Jusqu'à 6, l'auteur parle. Et le premier rôle n'est pas trop beau pour lui. Quand il est parti, j'ai couru vers vous comme vers le moi-même inaccessible, sur quoi ne peut peser la douleur. Mais l'instant fraternel qui m'enferme
laisse intacte soudain la différence. Quelle différence ennemie, mon amour, et quelle division de vous et de vous. La brute qui s'en va ne crée plus ma peine. C'est de vous, par les jours qui restent, qu'il va falloir apprendre à vivre et à mourir. Karine, aie pitié de toi. Demain, si tu le veux encore, la liberté, l'égoïsme et l'orgueil. Samedi 9 octobre 1920, Paris, plus 12 jours. J'ai passé 5 heures avec lui. Il a revu la sagesse Karine et la douceur Karine aussi. Il a senti qu'une espèce d'autrefois existait, possible pour lui, derrière les yeux, incompréhensible. Quelqu'un de moi mentait, quelqu'une disait la vérité. Je suis lasse. Plus qu'il ne faut pour mourir, et pourtant, tout ce que vous me demanderez encore, je le ferai. Il n'y aura rien de difficile et rien de plus grand que mon courage, puisque je me suis renoncé en vous, mon pauvre amour, qui m'aimait si follement mal. Car ce n'est pas la fièvre, ni la folie que je vous demandais, ma claire conscience, ni ce mal de mon corps qui est si simplement à vous, qui est à vous pour achever en tendresse absolue toutes les pensées qui vous laisseraient trop seul. Je veux la certitude, non pas l'angoisse. Je veux que 1 plus 1 égale une personnalité supérieure, non le délire, non cet anneau de fer autour du cœur dont vous gémissez. La joie. Non pas ceci, mon cher amour. Sans doute il faut que je parte. J'ai peur de toi. J'ai horreur d'être pour toi ce goût sans répit des caresses que les pires nuits de ma jeunesse ont imaginées, sans savoir même si c'était possible, même si je n'étais pas la seule au monde à créer cela. Il a fallu si longtemps pour me guérir d'être une amoureuse, et tant d'hommes refusés, et la stupide violence du seul auquel j'ai consenti. Mardi 19 octobre 1920. Plus 10 jours. Vous m'avez écrit tous les jours, sauf un. Note, Catherine Pozzi est revenue poursuivre ses études et passer l'hiver à Montpellier. Et puis, vous n'avez écrit ni avant-hier, ni hier. Vous êtes capable de n'avoir pas écrit aujourd'hui. Aucun moyen de savoir rien de vous. Lettre de l'auteur dramatique. Malgré la conférence de la paix chez lui à Paris, il veut poursuivre le divorce. Passé philo-science hier. La science subjective est-elle possible? D'éviter une réponse avec ce poids d'un double destin trop terrible. Je suppose que je serai reçue, qu'importe maintenant. Le beau jardin d'avenir, le voici fait. Si je ne vous connaissais pas, je préparerais la licence. Piaffant, heureux, simple, jeune et brave, avec d'autres esprits. Vous êtes sans doute mon plus grand courage, le moment d'héroïsme que chaque vie n'a pas. Car une conscience exposée. Veux-tu donner ta gloire, ta pensée, ton orgueil, ton sang? Et j'y ai été, sans fermer les yeux, dans l'absolue possession de moi-même. Mais que puis-je de vous, et même que veux-je de vous? J'ai construit par vous ma vie entière. Vous pouvez vous en aller. 27 octobre 1920, plus 8 jours. Je vous laisse ces cahiers. Les premiers vous feront mal, celui-ci même. Et pourtant, si vous savez lire, vous n'y verrez que votre être. 3 novembre 1920, plus 6 jours. Je ne puis me souvenir de l'époque exacte où j'ai rencontré votre pensée. C'était il y a un an, probablement en décembre, mais je me souviens de l'illumination, de la terreur. J'ai fermé le livre, note. Il s'agit probablement de l'introduction à la méthode de Léonard de Vinci, rééditée par les éditions Gallimard en 1919, précédée de « Notes et digressions ». Je n'ai rien dit ici. Je n'ai pu le lire deux fois. Je n'en ai rien dit au magistère. Un instant, j'ai souhaité lui en parler, lui faire lire, et farouchement, je me suis tue, comme si je défendais de toute approche l'essentiel de moi.
Notre esprit, prompt à se porter à l'extrême de sa puissance en présence d'un autre esprit. Mais trouverait-il infiniment plus rarement cet autre esprit avec qui jouir? Dans le même instant, j'ai, comme l'accord qui n'est possible qu'une fois, vu mon double, su que j'existais humaine, distante et séparée. Moi divisée, pouvant être, si le hasard le voulait, moi absolue. Et puis, j'ai regardé votre nom, votre vie, et j'ai dit non. Une autre fois, on m'avait apporté votre écriture, ce don de la pitié qui distrait les amis. Note. Catherine Pozzi, qui avait étudié la graphologie dite scientifique, savait intuitivement se mettre dans l'écriture d'un personnage inconnu d'elle et deviner son caractère, son milieu social. Reprise. On m'avait apporté votre écriture, ce don de la pitié qui distrait les amis m'a servi à vous regarder. Le diamant sans prix, inaccessible, quasi hors le monde. Diamant? Nuage dans le soleil? Je n'ai plus jamais pensé à vous. Aujourd'hui, 11 novembre 1920, Montpellier. Plus 7 jours. Pourquoi écrire? Tu es sorti, IE, tu es sorti de l'événement pur. Il ne t'arrivera plus rien. Psyché de peine, note. Surnom que Catherine Pozzi se donne depuis l'adolescence et que Paul Valéry utilisait également pour parler d'elle dans les pages de ses cahiers. Reprise. Il ne t'arrivera plus rien, psyché de peine. Tu n'as plus aucun rendez-vous à te donner dans les étoiles fixes. Tu y es. Qui l'y fait seul, ô mon cœur de raison, mon corps d'attention, mon petit centre électrique, mon instant simple, que tu y es seul, ô mon orgueil. Nous ne tresserons plus de belles couronnes de mots, Karine. Nous ne chanterons plus dans l'onde humaine des journées une petite histoire particulière. Nous ne mépriserons plus le populo, Karine. Nous compterons Madame Mulfeld pour quelque chose, note. Valérie était peut-être l'un des plus fidèles habitués du salon de Madame Mulfeld, ce que Catherine Pozzi lui reprocha très rapidement et très vivement. C'est qu'elle tenait Madame Mulfeld, que divers témoignages nous décrivent plutôt comme une femme volontaire et intelligente, elle la tenait donc pour une insupportable mondaine et une sorcière florentine. Reprise, nous compterons Madame Mulfeld pour quelque chose. Nous ne monterons pas le tank, science, Karine, comme un mince capitaine. Nous ne calerons plus le rond amour des hommes comme un coussin dans notre dos. Tu vivras méprisable et brûlée. Tu mourras frissonnante et conquise dans le soleil. Vers novembre 1920, de retour à Paris, donc vers la même période. Des autos passent, une pendule fait son bruit maniaque, le volet trempé de pluie claque au vent. Nous avons mangé du veau sur des artichauts aux truffes voilés de purée de champignons. Il y avait pléthore d'Américains autour des abat-jours roses. Hôtel chic, musique lointaine. C'est à 4 heures que le bonheur a pris son parapluie, comme il pleuvait, pour regagner son devoir. Vous pensiez à cela tout à l'heure, psyché. Aucune pensée n'eût été plus triste. Vous pensiez à cela sous les abat-jours roses, sous la musique, près des Américains. Vous revoyez le bonheur partir, si pressé de partir, si parti déjà. Je suis restée sans vous 1 heure dans la chambre inconnue, note. Catherine Pozzi et Paul Valéry louaient à une certaine Madame Houdet une chambre. Reprise. Je suis restée sans vous une heure dans la chambre inconnue où le feu brûlait plus vain qu'un buffet de gare, sans douceur, sans reflet. J'ai défait le goûter, mangé une brioche. J'ai pris ces chrysanthèmes que j'avais mis là pour forcer l'amitié des choses et les ai portées à tremper dans la salle de bain. Les retrouverai-je mardi? Ah, puissais-je ne jamais les revoir? Puissais-je ne pas revenir ici? Mardi, novembre 1920, aux environs des mêmes jours. Le lit cramoisi, pas défait. Cela sent le tabac d'Égypte. On a causé seulement ici. Cette pièce sans maître devient familière. S'habitue-t-elle à nous? Vous avez dit « Le mal que j'ai donné à l'être que j'aime le plus au monde. » Et puis « Quand tu n'es pas là, je suis absent. Je suis absent, séparé de moi. Étrange, incomplet, autre. Je te retrouve et me retrouve. Avec l'anxiété de ce que tu es, une autre inquiétude, la peur de ne pas t'atteindre, et cet amour, qu'il faut bien oser appeler une maladie de l'esprit. Vous êtes pâle et fermez les yeux sur votre fatigue, sur les images d'une vie détestée, sur cette joie douloureuse et secrète que vous ne pouvez porter. Rien de vous ce soir ne se défend d'aimer irréparablement et misérablement le léger bonheur de soi, S-O-I-E, de soi et d'âme qui est à vos genoux. L'univers ne nous divise plus, ô bien-aimé, si vous en refusez les pensées où vous seriez seul. Je te suivrai là et là encore. Mercredi midi, novembre 1920, les mêmes journées. Ainsi, je vous ai quitté hier. Je vous retrouve ce matin. Vous êtes un mince carte-pneu que le chasseur me tend. Guillemets. Nuit infinie en morceaux. Les profondeurs trop vraies et trop fausses de la nuit. Le battement du cœur, sa pointe, sa dureté, sa vitesse. La vue de la figure de ma vie. Je ne viendrai pas aujourd'hui. Demain, à 2 heures, mon amour, mais aujourd'hui, je suis trop fatiguée. Peut-être passerai-je vers 3h30, rue de Longchamp, note. Catherine Pozzi habitait au 123 rue de Longchamp, au bout de l'avenue Victor Hugo. Rue de Longchamp, où je mettrai une carte. À demain. Le bonheur est trop fatigué pour traverser la place de l'Arc de Triomphe. Il ira seulement au bout de l'avenue Victor Hugo, puis parler chez Tisiphone, note. Ce surnom que donnent Catherine Pozzi et Paul Valéry à Madame Mulfeld est le nom de l'une des trois furies, celle qui punit le meurtre. Madame Mulfeld habitait 3 rue Georgesville, à quelques mètres du domicile de Paul Valéry. Reprise. Puis parler chez Tisiphone. Dieu que j'en ai assez. Combien de temps encore supporterai-je quand je donne ce qu'elle nomme honneur de dépendre d'un nuage sur le front de votre famille, quand j'accepte l'affreuse heure sanglante où sans doute je serai terminée, que vous comptiez seulement avec votre fatigue de l'instant, faible passant qui étiez l'intelligence, qui n'étiez que l'intelligence. Jeudi, novembre 1920, les mêmes journées. Il a reçu, à 1h30, la permission pour l'adieu, guillemets. Et si les roses vous fatiguent, envoyez-moi une rose et je comprendrai que c'est la dernière. Note, allusion à une soirée passée en septembre 1920 dans le pavillon de la Grolet où séchaient des roses. À 2 heures, il est là. Vous entrez et je sais que je suis sauvée. Vous ne dites rien. Vos yeux immenses me regardent jusqu'à ce « moi » que je vous ai donné. Est-ce vrai? Est-ce vrai, ma douleur? Est-ce vrai que vous êtes ma joie encore? Nous nous sommes unis comme on se retrouve après l'extrême terreur. Tu es resté là, ici, et là, quand au pavillon, note. Allusion à une soirée passée en septembre 1920 dans le pavillon de la Grolet où séchaient des roses. Tu es resté là, ici, et là, quand au pavillon, nous avons été entourés de l'obscur silence. Le plus beau jour, ma vie, le plus beau jour, et sans caresse que ta présence. Suffisant univers, si proche, si profondément abandonné, et si profondément abandonné qu'une paix palpitante nous enfermait, où l'on ne sentait rien, toute connaissance du corps aboli, que le battement de l'onde de sang qui nous porte. Téléphone, se lever, courir, entendre, entendre. Je n'en puis plus. Oh ma chérie, comment ferons-nous séparés? Et puis, je n'irai pas déjeuner demain chez T. Note. Tisiphone, qui est un surnom. Je vous verrai. Vous entendre, t'entendre, t'entendre. Que Dieu soit béni, le monde se porte bien. Tout est évident, magnifiquement imbriqué, tout est en ordre et tralala. Je vais enlever la petite robe bleue, mettre les roses devant la porte, m'attacher un ruban cerise autour de la tête, danser le chimi en liquette. Je vais m'étendre dans la nuit contre votre tendresse la mieux aimée. Je vais consentir du bout du pied à l'aile de l'esprit, consentir à l'harmonieux univers, puisque c'est consentir à tes bras, à ta pensée, à vos lèvres. Je n'aurai plus mal, mon amour, pour un peu de temps. Vendredi soir, 26 novembre 1920. Environ les mêmes jours. Se réveiller, nouvelle. Je me lève, me reconnais très vivante, rose, forte, avec un goût passionné de victoire, de puissance. Et puis encore, toute ramassée, toute serrée, résolue, prête, dure et dure contre la lutte de demain. Va là-bas où tu es attendu. UE, où tu es attendu. Mon amour, si près de l'adieu, vous avez là-bas, note. Paul Valéry a reçu la visite de Catherine Pozzi dans l'hôtel particulier de son patron, Édouard Lebet. Cet homme d'affaires, administrateur de l'agence Havas, frère d'André Lebet, était atteint de la maladie de Parkinson. Il trouva en Paul Valéry dès 1900 un secrétaire idéal qui, chaque jour, pendant plusieurs heures, dépouillait son courrier et les journaux, passait ses ordres en bourse, gérait son portefeuille, écrivait ses lettres et lui faisait la lecture. Suite. Mon amour, si près de l'adieu, vous avez là-bas, avec étonnement, reçu la visite bleue qui n'enlevait pas son chapeau. Vous avez lu à haute voix pour elle ce travail que l'on vous paie et que vous n'aimez pas et que vous fabriquez avec ennui, mais acharnement. Vous avez lu à haute voix pour elle ce travail, long, tissé, pendant qu'y tombent, malgré vous, les idées multicolores. Vous lui avez dit « J'ai l'atroce impression que je vous déçois » et vous avez cru, le disant, qu'il s'agissait d'une création littéraire. Elle vous a répondu en vous demandant le courage de la regretter devant les hommes quand elle serait partie et l'inflexible volonté de continuer une pensée que, morte, elle puisse habiter. Et puis, elle s'est poudrée. Et puis, poudrée encore. On n'a jamais trop de poudre, dit Gladys. Note. Gladys de Marlborough, sœur d'Audrey Deacon, était une fidèle du salon de la comtesse Joachim Murat. Elle est partie dans le doux brouillard, je crois qu'elle regardait les hommes. Le soir, elle a réfléchi longuement. Le danger eût été de se faire une âme dans laquelle on puisse souffrir, ou une âme d'acier, méchante. Cela dépendait uniquement de la robe. La robe de Vionnet nous précipite Perséphone, pas de celle-là. La robe de Rolande, note, nom de la haute couture parisienne, incline au monsieur à cigare, pas. Il faut une robe inactuelle, la robe de Callot, avec la ceinture d'argent, celle qui a du bleu, si profondément noir. J'en ai envie, envie, je souhaite l'exister. Elle changera le dining room en Scheherazade et mettra 3 ronds de silence d'opale autour de son cou penché. Mais avec cette robe-là, belle au bois dormant, pas le chevalier ne perce. Tu boiras du vin rosé et tu dormiras. 9 heures. Les huîtres sont une surprise, une sensation pour une autre, une étonnante confusion des 3 sens, leur eau glacée, leur dure chair verte toute la mer. Des drapeaux américains, partout des fleurs, Thanksgiving Day. L'orchestre avalse, les riches dames nues, vous entrez, si mince, si tendue, si pâle, si menée par l'idée douloureuse, Tristan Mio. Note, surnom que Catherine Pozzi donne à Paul Valéry. Mais quelque chose qui se révoltait a cédé en moi. Pour la première fois, je sens votre passion, car vous n'êtes plus qu'elle. Vous êtes la suprême caresse, seulement et sans autre volonté que d'être là, debout, portée là par l'ordre magnétique de l'anti-soleil qui brûle les âmes. Le garçon tournoie autour de nous. À une table proche, B et RB vous ont reconnu. Note, les initiales B et RB désignent probablement Martine de Béhague et René et E de Brimont. Il a fallu qu'elle nous rejoigne, qu'avons-nous fait, dit ensuite, vous êtes partis. Le lendemain, jour sans présence, jeudi. Dimanche soir, novembre ou décembre 1920, donc quelques jours plus tard. Leonardo Mio. Note, ce surnom donné par Catherine Pozzi à Paul Valéry se réfère à l'introduction à la méthode de Léonard de Vinci. Leonardo Mio, faut-il vraiment vous prêter ces feuillets? Ils sont stupides. Jamais je n'ai rien écrit d'aussi bête, les voilà. Il faut bien que vous les lisiez, puisque l'espace de peine qu'ils tracent n'est pas vrai. Lis-les contre mon épaule, toi, mon vrai bonheur. Sache l'entière folie de ma raison. Non, pas folie, je ne dirais pas folie. Sache que ma raison exige d'Eros qu'il habite mon corps et ne soit pourtant pas régi par la succession des différences. Parce qu'avec cette fragile humanité périssable qui t'est douce, mystérieusement, il faut que tu te fasses une demeure éternelle. Tu te souviendras de ce jour-ci, mon amour. Je ne sais même pas quelle date il porte. Il est dimanche. A-t-on jamais parlé comme nous, d'un aimant à l'autre? Vous le trouvez aussi, vous êtes content aussi. Une heure après, vous me rappelez, et l'échange recommence. Mio, si simple et si donné. C'était assez que je rejoigne, après plusieurs jours révoltés, vos bras, pour que toutes nos questions aient leurs réponses. Vous avez bien voulu comprendre ce que j'ai très mal expliqué. Enfin, vous le croyez, chère vie. Vous le dites, ce credo, sans lequel je ne serai point à vous. Vous ne ferez rien sans moi de votre immortalité possible, cher cœur. Comment te quitterai-je, vous qui m'êtes plus limpide et plus nécessaire, plus accepté que l'eau que je bois? La veille de Noël, donc environ 1 mois plus tard, 1920, Hôtel Plaza, Athénée, Paris, appartement 512. Tout à l'heure, Tisiphone disait... Elle montrait au jeune Mauriac les vers que vous avez écrits sur son exemplaire de l'album, note, Mauriac. Mauriac, 1885-1970, qui avait alors 35 ans et avait déjà publié 2 recueils de poèmes, dont Les mains jointes, en 1911, salué par Barrès, puis 3 romans, dont en 1920, La chair et le sang, édition Émile Paul. Il fréquentait le salon de Madame Mulfeld, mais aussi celui de sa rivale directe, Marie-Louise Bousquet, rendez-vous qu'il trouvait assez amusant. On le voyait également au thé tournoi poétique de la duchesse de Rohan. Donc, elle montrait au jeune Mauriac les vers que vous aviez écrits sur son exemplaire de l'album. Note. L'album de vers anciens a été publié aux éditions des Amis du Livre en décembre 1920. Reprise, Tisiphone disait « Me voici immortel ». Je sais ce soir presque la formule de son amitié pour vous. Assurance contre l'indifférence posthume, coefficient 5. Rayon du salon, coefficient 3. Désir de s'instruire, coefficient 1. Sécurité de collectionneur sur la bonne pièce, coefficient 1. Tisiphone, peut-être sera conservé à l'état de note en renvoi deux lignes de texte en petits caractères sur l'édition critique et s'assure « Vivam parce mei multa superstes erit » note « Je vivrai et il restera beaucoup de moi. » Oh, Leonardo, ces graphes qui poussent sur toute âme vivante quand elle est devenue émanation pure. Ces messieurs, dont la fonction est d'être intelligent en général, ils parlent à l'aide d'un vocabulaire qu'ils ont en commun et qui tout de suite fait distinguer. Peut-être qu'ils habiteront sur moi, si je consens, comme vous le voulez, à faire une espèce de livre ici. Je souhaite donc commencer par un anathème. Guillemets. Ô champignon de la conscience et de la vertu, sur la forme de ma passion qui demeure quand je m'en suis allée, je ne vous permets pas de cheminer par votre petit stylo noir. Ce pays-ci n'est pas domaine de la littérature. Je ne suis pas encore asservi. Leonardo, tu le sais, l'amour n'est pas encore sur ma tête comme la malédiction ou le signe dans la Bible du choix sacré. Je puis sortir hors le charme presque comme je veux, et je connais pour faire cela à quelle pensée me suspendre.